Sud Radio, il est 3h. Parlons vrai.
Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Nous sommes en guerre.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie. Question travaux pratiques.
Je suis Nicolas Bourrez, directeur de l'élémentaire André Chénier à Neuilly-sur-Marne. Nous sommes lundi matin et pourtant je n'irai pas travailler.
Oui, on se demande quelquefois s'il ne faudrait pas placer l'intelligence artificielle à la tête des gouvernements quand on voit certaines décisions prises et surtout certaines qui ne sont pas prises. Alors défendre l'Europe, oui, défendre l'Europe, on n'a plus en plus besoin. Emmanuel Macron en a parlé samedi dernier à la Sorbonne. Nous sommes une puissance nucléaire, l'Angleterre aussi, mais l'Angleterre a Brexité, a Frexité et est partie depuis le Brexit. Eh bien nous, qu'est-ce que nous allons faire de défense européenne? Mais défense comment? À quelles conditions? On va en parler avec le sénateur Alain Houpert. Et puis nous allons aussi recevoir un expert en intelligence économique qui vient d'Afrique, qui vit en Afrique depuis 20-25 ans. Qui est français, qui est venu faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. On va en parler, sa vision de la France et aussi sa vision des relations entre la France et l'Afrique, qui en ce moment c'est plutôt le « je t'aime » et surtout « moi non plus ». Et puis nous allons parler effectivement de ce qui se passe. On débaptise, et pourquoi pas, mais à quelles conditions? Attrape le cinéma Jean Renoir pour le rebaptiser cinéma Omar Sy, d'accord. Et puis, comme d'habitude, comme chaque jour, un adolescent poignardé, un recteur, un proviseur, un directeur d'école qui ne veut pas aller en classe, qui ne veut pas aller à l'école, c'était ce matin. Pourquoi? Alors, défense de l'Europe? Mais défense de la France, elle est où? Et puis nous allons recevoir un philosophe, Bertrand Vergely, qui parle des grands arnaques. Des grands arnaques de quoi? Mais de la pensée. La main basse sur la pensée, sur comment le progrès devient régression. Tout cela avec vous. Attachez vos ceintures. On est parti.
Sud Radio 7.
104.9.
Sud Radio.
You're fine, so fine,
fine, so fine.
Ooh, wow. Oh girl, I'm gonna show you.
La marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Alors nous irons tous au paradis. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, si l'on écoute le président de la République qui était à la Sorbonne samedi dernier, nous irons tous au paradigme nouveau. De quoi s'agit-il ? Eh bien, on va en parler tout de suite.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie. Question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond
oui,
de son atelier.
Oui, Boris Vian, la Java des bombes atomiques. Là, c'est pas du tout mon oncle, ni mon père, ni votre père, ni votre grand-père. Eh bien, c'est la défense, c'est la France comme puissance nucléaire. Et il faut le dire quand même, heureusement que la France est une puissance nucléaire, ne fût-ce que pour parler de l'électricité, hein. Et puis, il y a tout le reste. Alors, puissance nucléaire, eh bien, Emmanuel Macron parlait de la nécessité d'une défense européenne. Il en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais cette fois-ci, il est allé plus loin en disant maintenant, face à la Russie, face aux dangers, au pluriel qui menace le monde, eh bien, il faut non seulement s'armer, mais s'armer au niveau européen. Écoutez ce qu'il disait, des extraits de ce qu'il a dit samedi à la Sorbonne.
C'est pourquoi ce qu'il nous faut faire émerger, et c'est cela le paradigme nouveau en matière de défense, c'est une défense crédible du continent européen. Quand nous avons un voisin devenu agressif, qui n'explique plus ses limites, mais qui dispose de capacités balistiques sur lesquelles il a beaucoup innové ces dernières années, dont les portées et la technologie s'est transformée, qui dispose de l'arme nucléaire et en a monté les capacités, on voit bien qu'il nous faut bâtir ce concept stratégique d'une défense européenne crédible pour nous-mêmes. C'est pourquoi, dans les prochains mois, j'inviterai tous nos partenaires à bâtir cette initiative européenne de défense qui doit d'abord être un concept stratégique dont nous déduirons ensuite les capacités pertinentes. Antimissiles, tirs dans la profondeur, comme toutes les capacités utiles. La France y jouera tout son rôle. Nous qui avons un modèle d'armée complète, dont l'objectif est d'être l'armée la plus efficace du continent et qui sommes aussi dotés de l'arme nucléaire et donc de la capacité de dissuasion qui va avec.
Voilà, dissuasion, Europe, la Russie nous menace, donc nous devons être prêts. Nous allons prendre les mesures qui s'imposent. J'ai envie de vous dire... Alain Houpert, bon, que je salue.
Bonsoir.
Sénateur de la Côte d'Or, membre de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Alain Houpert, c'est intéressant parce qu'il parle de cela, mais à un moment donné, il n'y a pas un mot qui ne revient pas du tout, qui est le Parlement. Est-ce que quand on parle de défense européenne, de voir ce qu'on va faire avec le nucléaire, les missiles antimissiles, etc., pas un mot, en tout cas, là, sur le Parlement. Est-ce que, je vous pose une question, est-ce que le Parlement, Sénat, Assemblée nationale, va-t-il être effectivement évoqué, va-t-il être consulté, va-t-il participer, après tout, hein, le pouvoir législatif ? Moi, c'est déjà une chose qui m'a marqué, pas un mot là-dessus.
Oui, vous avez raison, je fais partie de la Commission des Affaires étrangères, on n'est jamais consulté. la commission s'informe en invitant les chefs d'état-major, les industriels, pour savoir ce qui se passe, pour comprendre. La devise de l'Europe, c'était tous unis dans la diversité. Ouais. Et le discours que 75% des Français n'ont pas écouté, n'ont pas regardé, et 75% des gens qui l'ont vu se sont ennuyés. Ce discours est vraiment c'est le discours du déclin, c'est le discours des crises, c'est ce dont a l'habitude le président Macron. Il aime faire peur, il n'a pas pu mettre dans le rang les Français, donc il veut mettre dans le rang l'Europe. Il n'a pas du tout parlé du Parlement, il n'a pas parlé de la France, il n'a pas parlé des problèmes sociaux des Français. C'est ce qu'ils veulent attendre. C'était un discours électoral pour l'élection européenne. Et là, je suis comme Monsieur Bellamy. Il faut mettre le temps qui a été consacré lors de 1h45, je crois, dans les temps de parole des élections européennes sur le parti Renaissance.
Oui, vous voulez dire que ça fait partie c'est pas un discours électoral qui devrait être dans les temps de parole légiféré par l'ARCOM, c'est ça?
Oui. Et puis, nous avons, nos pères.
Mais sur le fond, oui.
Nos pères ont construit l'Europe de la paix. Il n'a parlé que d'Europe de la guerre, en faisant peur et en parlant de la dissuasion nucléaire. Oui, comme vous l'avez dit, heureusement que la France a la dissuasion.
Ah, on vous entend un peu mal, oui. Oui, allez-y Alain.
Je la connais bien, cette dissuasion nucléaire, parce que cette dissuasion nucléaire, nous avons signé en 2010 l'accord de Lancaster House, c'est-à-dire un accord franco-britannique entre les Français et les Anglais pour partager du matériel, en particulier l'accord se fait en France sur ma petite commune. Il y a 1500 personnes qui travaillent sur l'arme nucléaire dont le cœur est fait sur ma commune et les réservoirs de tritium sont faits sur ma commune, donc je connais bien le problème. Mais les Français et les Anglais utilisent du matériel en commun, mais c'est du secret défense. C'est-à-dire le secret défense.
Entre anglais et français, secret défense entre anglais et français, c'est ça.
On va pas, on sait très bien que l'arme atomique anglaise, elle vient des États-Unis, alors que l'arme atomique française, elle est française. Et comme disait le président, c'est de la stratégie. L'arme atomique, c'est une arme stratégique, c'est pas une arme tactique. Il confond la tactique et la stratégie. La tactique, c'est agresser. Et tous les juristes le disent. Si un pays européen est attaqué, automatiquement, il y aura une défense européenne. C'est pas la peine de faire peur aux Français. Déjà, les Français, ils ont du mal à remplir leur caddie. C'est pas le moment de leur faire peur et de leur raconter des histoires.
Oui, mais sur le fond, sur le fond, Alain Houpert, sur le fond, est-ce que, il pourrait vous répondre, oui, mais attendez, là, c'était pas un discours de politique intérieure, c'est un discours, est-ce qu'il faut, à votre avis, est-ce qu'il faut une défense européenne plus structurée, plus forte, avec partage, non pas de, effectivement, on dit, les Français vont garder la main, il faut appuyer sur le bouton nucléaire, ce que personne, évidemment, ne souhaite, on le sait très bien, c'est la fin, mais est-ce que, au fond, il n'y a pas un problème de vouloir peut-être une autre Europe, l'Europe de la défense qui avait été abandonnée en 1954, on n'a pas voulu de communauté européenne de défense, est-ce qu'aujourd'hui, on peut, ça a un sens, au moment, et je le dis, au moment où les Allemands, par exemple, achètent beaucoup plus de F-15, que de Rafale. D'ailleurs, ils n'ont pas acheté de Rafale. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là-dessus, entre cette Europe qui se cherche avec, effectivement, les nations qui jouent quand même chacun sur leurs intérêts, et d'autres qui disent non, il n'y a plus les nations, la France ne peut plus jouer le rôle qu'elle jouait, certes, il faut qu'elle la joue au sein de l'Europe. Ce qui a été le sens du discours d'Emmanuel Macron. Qu'en pensez-vous là-dessus? Enfin, est-ce qu'il y a il y a un vrai choix à faire dans les prochaines années?
L'Europe de la défense, c'est une utopie, comme vous l'avez dit, qui n'a pas marché. Souvenez du défilé des troupes allemandes aux Champs-Élysées, je crois que c'était sous le président Chirac ou Mitterrand, je sais plus. Mitterrand, ça ne marche pas. Et sur le nucléaire, je reviens sur le nucléaire. Le nucléaire, ça ne se partage pas. C'est du secret défense, c'est de la stratégie. C'est ce qui fait la souveraineté d'un pays. Ça ne peut pas se partager. Et il y a eu un accord de désarmement atomique mondial. Aucun pays ne peut créer de bombes atomiques, sauf ceux qui ne font pas partie du groupe de réflexion, du groupe qui a signé l'accord. Il y a Israël, l'Iran,
la Corée du Nord.
Oui. Tous les autres pays doivent le respecter. La France a une stratégie nucléaire comme l'Angleterre, mais la stratégie nucléaire française, elle est vraiment française, faite par nos ingénieurs français qui sont parmi les meilleurs du monde. Nous n'avons pas à la partager avec le reste de l'Europe. C'est ce qui fait notre... comme nous... actuellement, tout est en train de partir. Il se réjouit un petit peu de l'industrie européenne, mais...
Mais vous pensez...
Je rigole, 75% des voitures électriques viennent de Chine et on est en train de... Donc, faut revenir dans le bon sens. Je pense que le discours était un discours de peur et de contrainte pour mettre les gens au pas sur un autre objet du président, sur un autre but du président qui est devenir le président de l'Europe. Voilà, oui. Donc c'est
ça, j'allais vous poser la question. Pour vous, l'objectif de Macron, il n'est plus français, il est européen.
Il est même plus, quand on voit les sondages, il n'est même plus président de la France. Hein. Les Français le rejettent complètement. Donc maintenant, il veut être le président.
Il l'est pour le moment.
Président de l'Europe. Il est sur le papier, regardez les sondages.
Oui.
Regardez sur les sondages, et si on votait actuellement, ça serait la Bérésina pour lui, hein, et je pense que c'est le bon terme. Et puis, quand on parle de guerre, quelqu'un qui se prend pour Napoléon, Napoléon était un grand homme, il ne dévoilait pas ses projets comme ça à la télévision si la télévision n'existait pas. C'était toujours dans des cabinets secrets. La stratégie, sinon vos ennemis ils sont au courant et ils rigolent. Donc l'Ukraine est en difficulté. Nous sommes solidaires de l'Ukraine, mais qui est l'ennemi? Est-ce que c'est la Russie n'est pas notre ennemi? Donc,
en tout cas, on lui a pas déclaré la guerre. Elle nous a pas déclaré la guerre, en tout cas pour le moment.
On lui a pas déclaré la guerre, mais vous savez. Ça parlait d'Europe de la décence, ça se partage très mal. Regardez ce qui s'est passé avec le SCAF, l'avion supersonique du futur, où le but des Allemands, c'était de piquer la technologie de Dassault Aviation. Et le président de Dassault Aviation a dit non, on ne donne pas parce qu'on ne va pas ouvrir nos coffres-forts. Ouvrir notre recherche fondamentale, parce que c'est de la recherche fondamentale quand même.
Bien sûr.
Et la donner comme ça gratuitement aux autres pour se faire d'assaut aviation, c'est quelque chose d'important. C'est ce qui nous reste vraiment comme fabricant d'armes. D'assaut aviation, c'est pas que les Falcon présidentiels, c'est aussi les Rafales.
C'est quand même dommage que
nos amis allemands continuent d'acheter des F-16.
Ça montre que l'Europe, la fameuse Europe de la défense, l'Europe unie, elle n'y est pas encore. Quoi. C'est le moins que l'on puisse dire.
Nos pères de l'Europe voulaient l'Europe des peuples, l'Europe des nations, ça n'existera jamais. Faire nation, Voilà, on est,
ou les diplômes fédérales. L'Europe fédérale ne se fera jamais. Enfin, l'Europe unie. Vous ne croyez pas à un État européen, parce que certains le disent. Il faut penser à un État européen aujourd'hui. Même des Italiens, Mario Draghi et d'autres le disent. Mais vous, vous dites.
Oui, c'est la technocratie qui veut ça. Hein. Vous avez cité des noms qui sont des technocrates. C'est toujours mettre les Français en esclavage, mettre le peuple en esclavage. Donc, on est mieux aidé par son prochain que par son lointain. Hein. Mmh. On le voit en France, et ce qui fait la réussite de la France, c'est d'avoir 30 000 communes qui puissent, là je suis dans une petite commune de 150 habitants, ils ont investi 1 million d'euros dans l'église qui est juste derrière moi.
Commençons par la proximité, quoi. C'est ça.
La proximité est importante. Ouais. Voilà, l'Europe, c'était l'Europe du charbon et de l'acier, souvenez-vous. C'était l'Europe de la paix. C'est pas l'Europe de la défense. Hein. C'est pas l'Europe de la défense. Et il veut. J'avais l'impression d'être dans une dialectique américaine, c'est-à-dire la dialectique américaine, c'est de faire la guerre. Hein. Les États-Unis font la guerre un peu partout, et des guerres qui nous ont coûté beaucoup sur le plan de la démocratie, qu'on fait souffrir le monde. Regardez tout ce qui s'est passé en Afghanistan, sortons de tout ça, parlons de paix. La paix, c'est quelque chose d'important, et il faut... ça doit être notre maître mot.
Eh bien, écoutez, ce maître mot, j'espère qu'il sera respecté. On n'en est pas là en ce moment. Merci Alain Houpert. C'était en tout cas commenter un peu ce que fait aujourd'hui le discours d'Emmanuel Macron. Et puis on verra ensuite cette Europe de la défense. Mais pour le moment, et vous le savez, dans cette émission,
merci à vous.
On va parler de la défense de la France également.
Merci Alain Houpert d'avoir été avec nous. On marque une courte pause sur Sud Radio. On revient dans un instant pour parler de la France-Afrique. À tout de suite sur Sud Radio.
Quand au fond du camp, que la vie coupe mes jambes, quand je pleure, quand tu trembles, que notre terre flambe, quand tout semble insurmontable, que mes forces me quittent, que je me cache sous la terre, que mes heures se délitent, il suffit que tu apparaisses pour repousser les vents. Il suffit que je te reconnaisse, car tu es le sel, la cannelle qui ment. Quand je m'ennuie, que les jours perdent leur saveur, quand la vie fuit, qu'il ne reste que la torpeur, quand le froid me saisit et me fige, que la lassitude m'affaiblit et m'oblige, il suffit que je te regarde pour que le ciel s'allume. Il suffit que je te regarde, car tu es le sel, la cannelle, le piment. Tout
Sud Radio Nice 97.9 et en DAB+.
Sud Radio.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et nous allons parler, non pas de la Défense, mais nous allons parler de la France, nous allons parler de l'Afrique, et nous allons parler de, avec quelqu'un qui vient de suivre, qui vient de faire 800 km à pied sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. A tout de suite.
Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Yannick Noah, Saga Africa, nous allons en parler effectivement de l'ovation de la France, entre la France et l'Afrique, et comment elles ont évolué, avec Jean-Michel Lavoisard. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour André Berkov.
Lavoisard, on vous a déjà reçu pour parler du wokisme, de la pénétration du wokisme en Afrique, c'était passionnant. Il faut que je dise, vous êtes expert en intelligence économique, vous conseillez plusieurs sociétés, entreprises, vous avez vécu et vous vivez encore en Afrique, depuis 30 ans déjà dans divers pays africains, mais là... Vous revenez de 800 km, je dis 800 km à pied, sur la première partie du chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle, avec vous portiez un sac de 40 kilos, et vous l'avez fait, je crois, pour la guérison de votre fille, c'est bien ça?
C'est ça, tout à fait, et ça a été une immersion naturelle, physique et mystique, je dirais. Oui. Et l'occasion de découvrir ou de redécouvrir des endroits fantastiques de notre... De notre beau pays.
Hein, combien de temps ça vous a pris?
5 semaines.
5 semaines, vous avez fait donc la moitié du chemin.
C'est ça, jusqu'à la frontière espagnole, à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Et vous êtes parti de Paris?
Du Puy-en-Velay.
Ah, du Puy-en-Velay,
c'est ça. La Via Podiensis, qui est la voie principale, dit-on, qui mène depuis le Moyen-Âge, depuis plus de 1000 ans, vers Saint-Jacques-de-Compostelle, où se trouvent les reliques de l'apôtre Saint-Jacques le Majeur, qui était apôtre de Jésus.
Alors, vous l'avez fait, effectivement, c'est un effort que vous avez fait et qui est très louable pour la guérison de votre fille. Et je voulais savoir, cette France que vous avez peut-être redécouverte, ça faisait très longtemps que vous n'avez pas fait toutes ces communes, etc. Quel est votre sentiment? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Plusieurs choses, mais dites-nous.
Alors, plusieurs choses. D'abord, à quel point nos campagnes, nos zones rurales sont belles, isolés, plus ou moins façonnés, en gros, du Puy-en-Velay jusqu'à Cahors, on est dans un environnement très sauvage, on traverse les régions de la Margerie, du Gévaudan, de l'Aubrac, à plus de 1000 mètres, et il neigeait. Une impression à la fois de nature intacte, inspirante, et l'impression d'être enveloppé par une nature qui est jalonnée, balisée par les signes de la chrétienté, un très grand nombre de calvaires, de chapelles, d'églises, de signes religieux qui jalonnent les différents itinéraires. Certes, il y en a un qui passe par Tours, d'autres par Vézelay en Bourgogne, un autre par Arles, et ils convergent tous vers Saint-Jean-Pied-de-Port. Et j'y ai retrouvé complètement l'ambiance des Étoiles de Compostelle, le beau roman initiatique d'Henri Vincenot, racontait l'initiation.
Alors ça, oui, la beauté, voilà. Effectivement, des sites, de la nature, des constructions, de tout. Et alors, la société française, les gens, qu'est-ce que vous avez ressenti en quelques semaines?
Voilà, alors, tout d'abord, il y a une devise dit « à chacun son chemin ». Les motivations sont très diverses. Certains le font pour le sport, pour un bain de nature. Mais il y a vraiment c'est plus qu'un sentier de grande randonnée, en l'occurrence le GR65. Il y a une dimension spirituelle et même religieuse qui est encore intacte, qui passe par des abbayes fantastiques comme l'abbaye de Conques, etc. J'ai senti en ne faisant que traverser des hameaux, de nombreux hameaux, dans lesquels il reste une présence française, mais les gens sont affairés dans les champs. Donc il y a une densité de population humaine très très faible. Dans des communes plus importantes, à Figeac, à Moissac, à Montcuq et d'autres, des communes de au moins de quelques milliers d'habitants, dans lesquels ce qu'on a entendu dire d'imposition forcée, c'est-à-dire sans demander l'avis des populations, eh bien des communautés d'immigrés ont été implantées, sont totalement alimentées, assistées.
Sans l'accord de la population.
Ah, mais enfin, personne. Ouais, personne. Et de personne. Et j'en ai discuté brièvement avec des commerçants, avec des gens dans la rue. Mmh. C'est un véritable problème, d'abord parce qu'on a demandé la vie de personne, et puis ça a été relayé par des associations qui sont financées discrètement par le public, hein, donc par nos impôts finalement, oui. et ça pose un réel problème parce que l'administration...
Vous avez vu ça dans plusieurs villages, dans plusieurs...
Dans toutes les communes, oui.
Dans toutes les communes.
Et donc on trouve des dizaines à des centaines de communautés. Alors ce sont des Afghans, ce sont des Syriens, ce sont des Nord-Africains, des Maliens, ce sont des gens qui ne parlent pas un mot de français pour la plupart et qui visiblement n'ont pas l'intention de s'y mettre, qui vivent qu'on voit errer dans les rues, mais qui sont subventionnés, qui sont assistés complètement, sous couvert, soi-disant, c'est le langage officiel, de formation professionnelle, dont ils se désintéressent totalement. Donc il n'y a aucune intégration, aucune insertion, et ça pose des problèmes d'insécurité. Là, ce n'est pas de la paranoïa.
Et les gens que vous avez croisés...
Totalement, les gens font attention déjà quand ils vont se promener dans les alentours, il y a de l'insécurité physique, et notamment, jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, on m'a parlé clairement de trafic de drogue, hein, dont ces communes servaient de relais, de base arrière. Donc il y a une vraie insécurité. Donc problème d'imposition forcée. Et là, ça nous ramène à la théorie du remplacement des populations. Et puis problème de comportement où j'y ai vu aussi quelques personnes d'origine asiatique qui ne posent absolument aucun problème, qui eux se sont bien intégrés. Mais là, on impose des bandes, en fait, des bandes organisées, hein, de gens qui ne font aucun effort pour s'intégrer et qui
sont là, qui se baladent, qui
ils errent. Et puis le soir, ça m'a frappé. On les retrouve souvent sur des places principales ou un peu en cercle. Donc ils sont fermés. Ce sont des cercles fermés. Ouais. Ils parlent en arabe ou dans d'autres langues, et ils sont coupés de la population.
Mais on ne fait pas des efforts d'intégration, même des côtés des autorités, du village, etc.
Je n'ai pas eu un seul écho positif de la part des populations. Ouais. Alors, toutes ces régions rurales et où on trouve beaucoup d'élevage et d'agriculture sont habitués à des saisonniers, des travailleurs saisonniers.
C'est ça,
qui viennent d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, qui viennent d'Espagne, qui viennent... Ça, c'est entré dans les mœurs. Donc, il ne s'agit pas de xénophobie par principe. C'est réellement un problème de comportement de gens qui ne font aucun effort pour s'intégrer.
Et vous avez senti la tension de ce point de vue? La tension en deux mots. Hein.
Croissante. Bah, à tel point que dans des communes, par effet de conséquence, eh bien, ont été élus des maires et des représentants de la droite patriote forte pour remettre de l'ordre dans
ce qui n'était pas le cas avant.
Absolument pas, il y a un laxisme total. Ouais. Et puis, si vous permettez, ce chemin aussi m'a inspiré une réflexion, c'est que ce long cheminement où on porte un sac, c'est un peu l'éloge de la lenteur, on marche très lentement, on sillonne à travers des paysages
c'est
très
vrai,
divers.
À pied, on prend le temps, vous êtes à pied, vous marchez à pied.
Et en 5 semaines, on a le temps vraiment, et donc je le recommande, d'une immersion où on ne se pose pas la question de comment on va rentrer pendant au moins 3-4 semaines sur les 5. On est vraiment en immersion totale, on se laisse, on s'abandonne, donc dans une démarche spirituelle de méditation, de contemplation, de prière. Et ce chemin de Compostelle offre encore, au cœur de la France, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de la Terre, une sorte de tunnel d'immersion qui est formidable.
Et alors, Jean-Michel Lavoisin, vous sortez de là par rapport à la France avec de l'espoir, de l'inquiétude, de les deux?
Alors, à nouveau encore, l'admiration de coins qu'on connaît ou qu'on redécouvre, mais ça m'a inspiré que, en plus de recommander à tout le monde de le faire, soit en plusieurs fois, soit en une fois, il m'a semblé que ce chemin serait d'utilité publique et pourrait, voire devrait, être imposé à au moins 3 catégories de personnes. Oui. Les premiers, peut-être, alors c'est peut-être un peu utopique, mais on peut toujours rêver, les représentants de la puissance publique, au plan tout prétendant à une fonction.
Les députés, les ministres, tout ça.
Au niveau régional et national, absolument, pour apprendre à découvrir, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ou à redécouvrir et à aimer et à respecter et à défendre notre patrimoine naturel. La deuxième catégorie, et j'en ai eu un exemple concret, ce sont bien des délinquants, certaines catégories de délinquants, et en particulier jeunes, pour leur apprendre à aussi à aimer, à respecter, à défendre la France, nationaux et étrangers évidemment, et à... J'ai rencontré un adulte qui accompagnait un jeune délinquant et ils avaient convenu avec l'administration pénitentiaire d'une peine de substitution. Mmh. Et cet adulte partageait la peine dans les deux sens du terme, la peine physique et la peine de substitution de ce jeune. Et visiblement, le jeune était en transformation intérieure. Donc il y a une sorte de rédemption.
Ce serait une très bonne chose à faire. Et voilà. la troisième catégorie.
Oui, alors là, je suis un petit peu provocateur, mais enfin, je crois en théorie que ça serait une bonne chose d'en faire une sorte de test probatoire à tout prétendant à la nationalité française, d'où qu'ils viennent, hein, et qui apprendraient aussi, comme les deux autres catégories, à connaître, à aimer, à respecter et à défendre la culture française.
Peut-être ce serait mieux que le service militaire ou le service national, on ne sait pas.
Mais oui, en tout cas, complémentaire. Mais je le souhaite à tout le monde, en tout cas.
Alors, Jean-Michel Lavoisard, juste un mot, on vous inviterait pendant des heures, mais on refera appel à vous pour parler de cela, mais juste un mot, il y aurait beaucoup de choses à dire. Votre expérience africaine, encore une fois, vous vivez en Afrique, cette espèce de je t'aime, moi non plus, cette espèce de, disons pas de divorce, mais de désamour entre la France et l'Afrique, vous l'attribuez à quoi aujourd'hui, vous qui avez l'expérience de cela ?
Oui, je crois qu'il y a d'abord des raisons propres à l'Afrique, parce que l'Afrique, ou plutôt les Afriques, 55 pays, une très grande diversité à tout point de vue, a connu des mutations dont on peut observer l'accélération en profondeur depuis 20 ans en gros. Suite à notamment des révolutions et des mutations technologiques, par exemple, qui ont modifié les comportements, etc. Bon. Bernard Lugan, que vous avez déjà reçu ici, continue de nous rappeler, de nous instruire sur tous les aspects ethniques, etc. Ceci dit, les mutations récentes et en cours, profondes, au plan social, au plan économique, ont modifié la façon individuelle et collective de se comporter des Africains. Donc il y a des mutations que certains ont saisies ou pas, et je crois que les Français sont à la peine pour vraiment intégrer ces mutations. Les relations ne sont plus dictées uniquement par des facteurs ethniques, culturels, sociologiques, etc. Donc l'Afrique a muté globalement. La France, elle, a régressé en réalité. On le voit sur le territoire national, la France administrative, la France officielle, la France politique. Et dans les esprits, on dit longtemps qu'il n'y a plus de précaré en Afrique. En réalité, dans les esprits, ça relève encore beaucoup de ça. Il y a une vraie difficulté à admettre une des conséquences de l'ouverture des pays africains au plan politique, économique, financier, au monde entier, à l'intégrer et à l'accepter. C'est un fait. Et puis cette politique permanente de repentance, de décolonisation, les Africains n'en demandent pas tant. Et la conséquence de ça, c'est que tout le monde déconsidère finalement la France. Et donc les Africains
ne demandent pas que la France se fouette.
Mais pas du tout. Ils ont compris le message. Vous êtes en difficulté, vous repentez, vous avez des difficultés économiques, financières. Et ben on va se tourner vers d'autres. Donc en réalité, les Africains
sont
déjà passés à d'autres. Oui. Au sujet de la Chine qui fait un travail en profondeur et dans le long terme, comme on sait, mais aussi la Russie qui est un acteur ancien, mais qui a avec des forums Russie-Afrique notamment, le deuxième à Saint-Pétersbourg l'année dernière, affiche et opère une véritable stratégie continentale de pénétration des marchés.
Et qui porte ses fruits.
Qui porte ses fruits et dont, quoi qu'on en pense, le président Poutine est extrêmement populaire vis-à-vis des Africains parce qu'ils y voient un homme fort qui défend son peuple, ses frontières, sa culture, qui ne se bat pas la coulpe en permanence et qui au contraire déconsidère et se demande la politique nationale portée par le président Macron. Je crois qu'il y a une véritable, c'est un plan, c'est pas un problème de compétence, au contraire, l'État français, sous la direction du président Macron, non seulement déconstruit la France et pour des raisons qui ont été aussi évoquées avec votre interlocuteur précédent, déclasse la France à l'international. Donc il y a déconstruction intérieure, déclassement extérieur. Et donc, Prenons les Russes, qui font l'objet d'une certaine un peu paranoïa, une grande attention. Ils n'ont pas besoin de manigancer, de manipuler. La France se tire c'est même plus une balle, c'est une rafale dans le pied dans tous les pays, par exemple du Sahel, dont elle a été évincée, éjectée. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, où je suis, nous y travaillons actuellement. Et donc la Russie et d'autres acteurs étrangers, eh bien, ne font qu'occuper la place qui est abandonnée par la France.
C'est ça. C'est parce que la place a été abandonnée qu'ils peuvent rentrer. La nature ayant horreur du vide.
Absolument.
C'est ça.
Alors, on n'a pas parlé des États-Unis, mais alors eux font ils ont toujours une stratégie très très globale, collective, à travers des organisations internationales, etc. Mais le niveau de granularité de leur intérêt réellement de ce qui se passe dans les pays n'est pas du tout le même que le nôtre. Ils ont fait notamment un mauvais calcul récemment au Niger, où ils sont en ce moment en train d'être expulsés politiquement et avec des conseillers, parce que suite au psychodrame français où la ministre des Affaires étrangères début août avait lancé un ultimatum aux putschistes nigériens, ce qui n'a eu aucun effet. Puis l'ambassadeur de France en septembre, qui avait refusé sur ordre de l'Élysée de répondre à une convocation tout à fait naturelle du pouvoir en place. Eh bien, les Américains ont savonné la planche des Français. Sont vraiment en Afrique, en tout cas au moins.
Oui. On leur rend pas l'appareil.
Ce sont les pires alliés de la France en Afrique. Mais ils pensaient s'attirer les bonnes grâces du nouveau régime en participant à évincer la France. Et ça se retourne contre eux maintenant. Et ça nous ramène notamment au projet culturel, civilisationnel, l'offensive LGBT que rejettent massivement les populations africaines.
On en a parlé, l'arroseur arrosé, c'est une figure de style, mais qui est dans la réalité. Merci Jean-Michel Lavoisard. Écoutez, vous aurez fait, je sais que vous allez faire la seconde partie du chemin Saint-Jacques-Compostelle, on vous recevra avec plaisir à l'issue ou même avant.
Bien volontiers, merci
Jean-Michel Lavoisard d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio et on va se retrouver dans un instant pour les pères, les huées et les bravos d'André Bercoff. À tout de suite sur Sud Radio.
Pas envie d'essayer, pas envie de regarder ma vie part en fumée. Quand je vois dans tes yeux qu'en fait toi tu t'en fous de ce que j'ai dans le cœur, de ce qui reste de nous. Comment ne pas vouloir partir quand t'essayes pas de retenir les éclats de ce qu'on a pu vivre et nos premiers sourires. Dis-moi pourquoi. J'ai pas envie de pardonner, je veux plus te regarder. Et si je peux pas t'effacer, au moins je veux avancer. J'oublierai bien plus tard que t'avais pas envie, que t'avais pas le temps, que toi tu t'en foutais. Des petites éraflures, des grandes égratignures, ce qui reste à l'intérieur, ce que j'ai dans le cœur, je sais pas pourquoi. Que les étoiles contemplent mes larmes. Et qu'elle décide le bien du mal. Que les étoiles contemplent mes larmes. Que le temps vacille et emporte le mal. Et comme le contemple mes larmes et qu'elle décide le bien du mal. Que les étoiles contemplent mes larmes, que le temps vacille et emporte le mal. Et comme le les étoiles, contemple mes larmes, que le temps vacille et emporte le mal.
Sud Radio Perpignan
103.2
Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour.
Oui, vraiment, cette chaleur n'est pas naturelle.
Moi, je crois que le temps est à l'orage. Vous permettez?
Oh, mais je vous en prie.
La fumée ne vous dérange pas?
Oh, non, vraiment, j'y suis habituée. Mon mari est une vraie locomotive.
Vous avez une bonne idée de venir ici, mademoiselle.
Oh oui, pour la friture, c'est excellent.
Le dialogue de parti de campagne de Jean Renoir, un film datant de 1946. Un film qu'on peut voir, revoir, un chef-d'œuvre évidemment, Jean Renoir, un des plus grands cinéastes français, bien sûr. Alors, il s'est passé quelque chose samedi qui aurait pu être très bien et que, au fond, nous, on aurait applaudi. Sauf que, voilà, la ville de Trappes rendait hommage à l'un de ses enfants les plus célèbres, Omar Sy, l'acteur Omar Sy, effectivement, qui fut une carrière remarquable aux États-Unis, à Los Angeles, qui a été connu par ce film Les Intouchables, bien sûr, qui a joué Arsène Lupin, qui, voilà, et qui était à Trappes ce lundi. La ville lui rendait hommage, puisque c'est l'enfant du pays, l'enfant de la ville. Et il y avait Jamel Debbouze qui était là, il y avait d'autres amis, et en grande pompe, Omar Sy, Omar Sy, voilà le nouveau cinéma de Trappes, Omar Sy. Or, ce n'est pas un nouveau cinéma, bien sûr, c'est un cinéma qui date de plusieurs dizaines d'années, et qui s'appelait jusqu'à que samedi, le cinéma Jean Renoir. Voilà, c'était un cinéma très très connu, d'ailleurs que tous les enfants de Trappes, y compris Omar Sy, y compris Jamel Debbouze, connaissaient. Et voilà, c'était le cinéma Jean Renoir, voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe et pourquoi on réagit? Pour une chose très simple, que la ville de Trappes consacre et dédie un cinéma à Omar Sy, c'est très très bien, et on comprend. Il ne s'agit pas de comparer qui que ce soit à quoi que ce soit. Le problème, c'est que le cinéma Jean Renoir n'est pas le seul cinéma de Trappes, qui n'est pas un village de 200 habitants. On aurait pu, une salle de spectacle, on aurait pu inaugurer une salle de spectacle, ou confier une salle de spectacle, et la nommer Omar Sy, sans problème. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce symbole, d'enlever l'un des plus grands réalisateurs du cinéma français, une espèce de légende du cinéma français, c'est pas un inconnu, etc., qui représente un patrimoine, qui représente effectivement un symbole de la qualité du cinéma français, qu'aujourd'hui, on peut dire, n'est pas ce qu'elle était, et franchement, une partie de campagne, c'est autre chose que Les Intouchables. Mais ce n'est pas le problème de la qualité, moi, qui me gêne pas du tout. Mais est-ce qu'on a besoin de débaptiser? Est-ce qu'on a besoin de quoi? C'est une espèce. Vous savez, pour moi, c'est comme une espèce de, je sais pas moi, de vol de statues. C'est une espèce de, oui, de vandalisme. Parce que Omar Sy mérite effectivement. Écoute, c'est un acteur qui a fait sa carrière à Hollywood et ailleurs, très bien. Et il va être le membre du jury du prochain Festival de Cannes. Mais franchement. Franchement, est-ce que ça mérite d'enlever, de faire disparaître Jean Renoir? De toujours du passé, faisons table rase, on déboulonne les statues, on flambe, on quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment la ville de Trappes n'a pas pensé qu'elle pouvait avoir une autre salle de spectacle à laquelle qui pouvait rendre hommage à l'enfant du pays, à Omar Sy ou à Jamel Debbouze? Et c'est très bien comme ça. Ce qui est tuant dans le cerveau de certaines gens, c'est qu'il faut qu'ils éliminent. Je dis même pas qu'ils remplacent, pas tout de suite on me dira le remplacement. Je dis pas qu'ils remplacent, mais quelque part c'est aussi ça. Et ça ne veut rien dire. Qu'ils s'appellent Omar Sy ou Jérôme Dupont, c'est la même chose. On ne débaptise pas, on n'enlève pas le cinéma Jean Renoir, on n'enlève pas ce qui fait l'essentiel de l'art du cinéma français, c'est tout. C'est ça qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est que ce business? Qu'est-ce que c'est que cette espèce de facilité glauque à vraiment se débarrasser de tout ce qui était le passé, l'histoire, alors que la partie de campagne et les films de Renoir sont plus présents que jamais et sont plus remarquables que jamais. Et on aimerait que les actuels acteurs fassent la moitié du quart de ce que faisait Jean Renoir et les acteurs qu'il avait à l'époque. Voilà, donc que Jean Renoir passe à la trappe, non. Non, vraiment pas.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Alors, vraiment, on est fatigué de dire ça, mais voilà, Matisse, tué à Château par un mineur de 15 ans, qui avait déjà été arrêté pour vol aggravé à violence la semaine dernière, etc., un adolescent de 15 ans, voilà. Et puis Lola Davier, 12 ans, Thomas Perotto, 16 ans, Mathis Marché, dont je viens de parler, 15 ans, et n'oublions pas Timothy, Loran, Moran et tous les autres. N'oublions pas Shamseddine, aussi le jeune Shamseddine, parce qu'il parlait à la sœur d'un, je ne sais pas comment l'appeler, d'une racaille ou autre, qui a été aussi tabassée à mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ben voilà, ça va. Et puis, alors je vais vous faire entendre juste quelque chose. Vous savez que Gabriel Attal avait demandé qu'on expérimente le port d'uniforme à l'école. Et donc, il y a un directeur, là-bas, un directeur de collège, Nicolas Bourrez, voilà, Nicolas Bourrez. Donc, il a effectivement dit quelque chose ce matin. Il a fait une vidéo ce matin. Écoutez-la. Il ne va pas aller à l'école pour la première fois depuis 15 ans. Il n'ira pas dans son propre établissement. Voici pourquoi.
Bonjour. Je suis Nicolas Bourrez, directeur de l'élémentaire André Chénier à Neuilly-sur-Marne, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Nous sommes lundi matin et pourtant je n'irai pas travailler. Je n'irai pas dans l'école que je dirige depuis 15 ans. J'y consacre ma vie. Je n'irai pas parce que je suis pris pour cible, parce que j'ai souhaité m'engager dans le projet ministériel porté par l'actuel Premier ministre d'expérimentation de la tenue commune. Un comité de défense de l'école publique à Neuilly-sur-Marne qui est farouchement opposé, me cible, m'insulte de la pire des façons, m'expose lâchement, dangereusement, en distribuant des tracts dans la cité, dans tout le quartier, dans toute la commune. Des tracts qui me qualifient d'anti-musulman. On sait où ça a mené, on connaît déjà plusieurs histoires malheureuses, donc je ne veux pas aller travailler. Je ne veux pas aller exposer mes élèves à des risques qui pourraient être immenses, qui pourraient être inconsidérés si je le faisais. Et puis je ne tiens pas non plus à m'exposer moi-même. Et que veulent-ils en fait dans ce comité ?
C'est très 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 bien de parler de l'Europe de la défense. C'est très bien de parler de paradigme nouveau. C'est très bien de parler du nucléaire. C'est très bien se défendre. Mais qui défend Nicolas Bourrez ? Qui ne peut plus aller en classe. Alors effectivement, Nicole Belloubet l'a dit, elle a fait un tweet, on va renforcer sa protection, etc. On fera attention, on va sanctionner. Mais qui les défend vraiment? Qui défend ces jeunes qui se font poignarder, tabasser tous les jours? Qui et comment? On va attendre quoi? On va attendre la guerre? On va attendre effectivement qu'il y a d'autres menaces que effectivement les ce qui se passe en Russie, Ukraine et compagnie. Bien sûr que c'est grave, mais croire parce qu'on est nous, parce qu'un certain nombre de gens sont bien protégés dans leurs ouates et dans leurs igloos, qu'ils vont éviter cette espèce de lamentable fait divers. Ça fait hurler de rire les faits divers. Cette espèce de lamentables attentats à la personne qui se passe tous les jours en France aujourd'hui. C'est ça l'Europe ? C'est ça l'Europe qu'on veut ? Et je n'ai pas parlé d'Amsterdam et tout le reste. Il est temps quand même qu'on se réveille. Sinon, les lendemains qui déchantent, ils sont déjà là.
On va se retrouver dans un instant après les infos de 13h. On marque une courte pause sur Sud Radio. On va revenir pour le face-à-face avec André Berkov qui reçoit Bertrand Vergely. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in. And the devil's knocking at my door. Whoa, whoa. Out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah.
from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see I'm losing control when you're not next to me? Mm-hmm. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem is I want your body like a fiend, like a bad habit. It's hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth, can't see the forest through the trees, got me down on my knees.
Sud Radio Marseille 95.1 et en DAB+.
Sud Radio. Sud Radio.